Aristote, Morale à Nicomaque, Livre 5, Théorie de la justice. Remarque, le livre 5 de la Morale à Nicomaque est identique au livre 4 de la Morale à Œdème.
Théorie de la justice. Chapitre 1er. Sommaire. De la justice, définition. Opposition générale des contraires, et spécialement des deux contraires, le juste et l'injuste. Sens divers dans lesquels peut s'entendre le mot de justice. Rapport de la justice à la légalité et à l'égalité. La justice se rapporte surtout aux autres. Elle n'est pas purement individuelle. C'est là ce qui établit une différence entre elle et la vertu, avec laquelle elle se confond. Paragraphe 1. Pour bien étudier la justice et l'injustice, il faut voir trois choses. À quelles actions elles s'appliquent ? Quelle espèce de milieu est la justice, et ce que sont les extrêmes entre lesquels le juste est un louable milieu. Paragraphe 2. Suivons ici la même méthode que pour tout ce qui précède. Paragraphe 3. Nous voyons que tout le monde s'accorde à nommer justice cette qualité morale qui porte les hommes à faire des choses justes et qui est cause qu'on les fait et qu'on veut les faire. Même observation pour l'injustice. C'est la qualité contraire qui est cause qu'on fait et qu'on veut faire des choses injustes. Voilà donc déjà comme un portrait de la justice que nous donnent ces considérations générales. Paragraphe 4. Il n'en est pas des sciences et des facultés que l'homme possède comme de ses qualités morales. La faculté, aussi bien que la science, reste, ce semble, tout à fait la même pour les contraires. Mais la qualité contraire n'est jamais celle des contraires également. Je m'explique par un exemple. La santé ne produit jamais des actes qui soient contraires à la santé. Elle ne produit que des choses conformes à la santé. Ainsi, nous disons d'un homme que sa démarche annonce la santé, quand, en effet, il marche comme un homme qui se porte bien. Paragraphe 5. Souvent, une qualité contraire se révèle par la qualité contraire. Comme souvent aussi, les qualités se manifestent par les sujets mêmes qui les produisent. En effet, si la bonne disposition du corps est parfaitement connue, la mauvaise disposition ne le devient pas moins. Et si la bonne disposition peut être induite des circonstances qui la manifestent, réciproquement, ces circonstances résultent de la bonne disposition elle-même. Par exemple, si la bonne disposition du corps consiste dans l'épaisseur des chairs, il s'ensuit nécessairement que la mauvaise consiste dans leur maigreur, et tout ce qui produira la bonne disposition sera aussi ce qui produira le développement des chairs. Paragraphe 6. Le plus ordinairement, quand l'un des termes contraires est pris en plusieurs sens, l'autre terme, par une suite nécessaire, peut se prendre aussi de plusieurs manières. Tel est le cas du juste et de l'injuste. Paragraphe 7. Il semble en effet que la justice et l'injustice peuvent s'entendre en plusieurs sens. Et si l'homonymie dans ce cas nous échappe habituellement, c'est que les nuances sont très rapprochées. Elles seraient plus claires et plus frappantes si elles s'appliquaient à des choses plus éloignées entre elles, car alors la différence dans l'idée est considérable. et c'est ainsi qu'on appelle sans erreur d'un même mot dans la langue grecque et l'os du cou des animaux et l'instrument avec lequel on ferme les portes. Paragraphe 8. Voyons donc en combien de sens on peut dire d'un homme qu'il est injuste. On flétrit tout à la fois de ce nom et celui qui transgresse les lois et celui qui est trop avide et celui qui fait aux autres une part inégale. Par une conséquence évidente, on doit appeler juste celui qui obéit aux lois et celui qui observe avec autrui les règles de l'égalité. Ainsi, le juste sera ce qui est conforme à la loi et à l'égalité, l'injuste sera l'illégal et l'inégal. Paragraphe 9. Mais puisque l'homme avide, qui demande plus qu'il ne lui est dû, est injuste aussi, il le sera en ce qui concerne les biens de cette vie, non pas tous cependant, mais ceux qui font la fortune et la misère. Ce sont là toujours des biens d'une manière générale, quoique ce ne soit pas toujours des biens pour tel individu en particulier. Les hommes ordinaires les désirent et les poursuivent, mais c'est bien à tort. Tout ce qu'ils devraient faire, ce serait de souhaiter que ces biens, qui sont bons en soi, restassent aussi des biens pour eux et de discerner avec sagesse ce qui pour eux, en particulier, peut être un bien réel. Paragraphe 10. L'homme injuste ne demande pas toujours au-delà de ce qui lui doit revenir équitablement. Parfois, l'injustice consiste à prendre moins qu'il ne faut. Et, par exemple, dans le cas où les choses qu'il faut prendre sont absolument mauvaises. Comme un mal moindre paraît être en quelque sorte un bien, et que ce n'est qu'au bien que s'adresse l'avidité, celui qui recherche pour soi un moindre hommage peut, par cela seul, passer aussi pour injustement avide. Paragraphe 11. Il viole aussi l'égalité. Il est inique, car l'expression d'iniquité comprend encore cette idée de l'injustice, et c'est un terme commun. Mais de plus, il transgresse les lois, car c'est là précisément en quoi consiste l'illégalité, c'est-à-dire que la violation de l'égalité, l'iniquité, comprend toute injustice, et qu'elle est commune à tous les actes injustes, quels qu'ils soient. Mais si celui qui viole les lois est injuste, et si celui qui les observe est juste, il est évident que toutes les choses légales sont aussi de quelque façon des choses justes. Tous les actes spécifiés par la législation sont légaux, et nous appelons juste chacun de ces actes. Paragraphe 13. Les lois, toutes les fois qu'elles statuent, ont pour objet de favoriser ou l'intérêt général de tous les citoyens, ou l'intérêt des principaux d'entre eux, ou même l'intérêt spécial de ceux qui sont les maîtres de l'État, soit par leur vertu, soit à tel autre titre. Par conséquent, nous pouvons dire des lois en un certain sens qu'elles sont justes, quand elles créent ou qu'elles conservent le bonheur, ou seulement quelques-uns des éléments du bonheur pour l'association politique. Paragraphe 14. La loi va même plus loin et elle ordonne des actes de courage. Par exemple, de ne pas quitter son rang, de ne pas fuir, de ne pas jeter ses armes. Elle ordonne encore des actes de sagesse et de tempérance, comme de ne pas commettre d'adultère, de ne nuire à personne. Elle ordonne des actes de douceur, comme de ne pas frapper, de ne pas injurier. La loi étend également son empire sur toutes les autres vertus, sur tous les autres vices, prescrivant telles actions et défendant telles autres, avec raison quand elle a été raisonnablement faite, à tort si elle a été improvisée avec trop peu de réflexion. Paragraphe 15. La justice, ainsi entendue, est donc la vertu complète. Mais ce n'est pas une vertu absolue et purement individuelle. Elle est relative à autrui, et c'est là ce qui fait que, bien souvent, elle semble être la plus importante des vertus. Ni le lever, ni le coucher du soleil n'est aussi digne d'admiration. Et c'est de là que vient notre proverbe. Toute vertu se trouve au sein de la justice. J'ajoute qu'elle est éminemment la complète vertu parce qu'elle est elle-même l'application d'une vertu complète et achevée. Elle est accomplie parce que celui qui la possède peut appliquer sa vertu relativement aux autres et non pas seulement pour lui-même. Bien des gens peuvent être vertueux pour ce qui les regarde individuellement, qui sont incapables de vertu en ce qui concerne les autres. Paragraphe 16. Aussi, je trouve que le mot de Bias est plein de bon sens. Le pouvoir, disait-il, est l'épreuve de l'homme. C'est qu'en effet, le magistrat, investi du pouvoir, n'est quelque chose que relativement aux autres. Il est déjà en communauté avec eux. Paragraphe 17. C'est encore par la même raison que, seule parmi toutes les vertus, la justice semble être comme un bien étranger, comme un bien pour les autres et non pour soi, parce qu'elle ne s'exerce qu'à l'égard d'autrui, car elle ne fait que ce qui est utile à d'autres, qui sont ou les magistrats ou le public entier. Paragraphe 18. Le plus méchant des hommes est celui qui, par sa perversité, nuit tout ensemble à lui-même et à ses semblables. Mais l'homme le plus parfait n'est pas celui qui emploie sa vertu pour lui-même. C'est celui qui l'emploie pour autrui, car c'est une tâche qui est toujours difficile. Paragraphe 19. Ainsi, la justice ne peut pas être considérée comme une simple partie de la vertu. C'est la vertu tout entière. Et l'injustice, qui est son contraire, n'est pas une partie du vice, c'est le vice tout entier. Paragraphe 20. On voit du reste, d'après les développements qui précèdent, en quoi diffèrent la vertu et la justice. Au fond, la vertu reste la même. Seulement, la façon d'être n'est pas identique. En tant qu'elle est relative à autrui, c'est la justice. En tant qu'elle est habitude morale personnelle, c'est la vertu, absolument parlant. Chapitre 2. Sommaire. Distinction à faire entre la justice ou l'injustice et la vertu ou le vice. La justice est une espèce de vertu distincte de la vertu en général, comme la partie est distincte du tout. Il faut distinguer aussi la justice ou l'injustice prise en général de la justice ou de l'injustice dans un cas particulier. La justice des actions est d'ordinaire d'accord avec leur légalité. Il faut distinguer deux espèces de justice. Justice distributive, politique et sociale, justice légale et réparatrice. Les relations des citoyens entre eux sont de deux espèces, volontaires et involontaires. Paragraphe 1. Quoi qu'il en soit, nous étudions la justice en tant qu'elle est une partie de la vertu. On peut la considérer comme une vertu spéciale, ainsi que nous l'avons dit. nous voulons d'eux-mêmes étudier l'injustice comme étant une partie du vice. Paragraphe 2. Et voici bien la preuve qu'elle est un vice particulier. Celui qui commet, sous les autres rapports, des actes mauvais, fait mal. Et il est injuste, si l'on veut. Mais on ne peut pas dire pour cela que par avidité, il se fait une part plus forte que celle qui lui revient. Ainsi, l'homme qui, dans la mêlée, jette son bouclier par lâcheté, celui qui, par méchanceté, calomnie quelqu'un, celui qui, par avarice, refuse de secourir un ami, tous ces gens-là ne pêchent pas en prenant plus qu'il ne leur est dû. Réciproquement, quand un homme fait par avidité un lucre inique, il peut fort bien ne faire aucune des actions vicieuses que nous venons d'énumérer. Pourtant, s'il n'a pas commis toutes ses fautes, il en a certainement commis une, quelle qu'elle soit, puisqu'on doit le blâmer. Et il a montré sa perversité et son injustice. Paragraphe 3. Il y a donc une certaine autre injustice qui est en quelque sorte une partie de l'injustice totale. Il y a un injuste spécial, partie de l'injuste absolue, qui est la violation de la loi. Paragraphe 4. Ajoutez qu'entre deux hommes qui commettent un adultère, si l'un n'a en vue que le lucre qu'il en peut tirer, et qu'il en tire réellement, et si l'autre, au contraire, y mettant son argent, n'est entraîné que par sa passion, celui-ci doit placer pour un débauché plutôt que pour un homme bassement intéressé, tandis que l'autre, s'il peut passer pour un homme injuste et coupable, n'est pas certainement un libertin, puisqu'il est clair que c'est le gain seul qui l'a fait agir. Paragraphe 5. Autre observation. On peut toujours rapporter tous les autres actes injustes, tous les autres délits à quelque vice spécial. Par exemple, si un homme commet un adultère, on rapporte son délit à la débauche. Si, dans une bataille, il abandonne son compagnon à la lâcheté. S'il a frappé quelqu'un, à la colère. Tandis que s'il a commis sa faute en vue du profit qu'il en a tiré, on ne peut la rapporter à aucun autre vice que l'injustice elle-même. Paragraphe 6. Il résulte évidemment de ceci qu'outre l'injustice entière et générale, il y a quelque autre injustice qui, comme partie, lui est synonyme, parce que la définition de toutes deux se trouve dans le même genre. Toutes deux, en effet, ont également leur action possible dans le rapport de l'agent à autrui. Mais l'une, relative à tout ce qui concerne l'honneur, la fortune, le salut personnel et tous les motifs de cet ordre, si l'on pouvait les comprendre sous un seul et même nom, n'a en vue que le plaisir résultant d'un lucre inique. L'autre, au contraire, s'applique d'une façon générale aux mêmes choses qui préoccupent aussi, mais en sens inverse, l'homme vertueux. Paragraphe 7. On voit donc qu'il y a plusieurs espèces de justice, et que c'est une vertu spéciale qu'il convient de distinguer de la vertu prise dans toute l'étendue de ce mot. Examinons de plus près ce qu'est la justice et quels en sont les caractères. Paragraphe 8. On a défini l'injuste en disant que c'est ce qui est illégal et contraire aux règles de l'équité ou inique. Par suite, le juste est ce qui est légal et équitable. Et ainsi, la première injustice dont on a parlé plus haut est celle qui se rapporte à l'illégalité. Paragraphe 9. mais les idées d'inégalité et de quantité plus grande, loin d'être une seule et même chose, sont fort différentes. L'une est à l'autre ce que la partie est relativement au tout, car tout ce qui est plus est inégal, mais tout ce qui est inégal n'est pas plus pour cela. Par conséquent, l'injustice et l'injuste ne sont pas identiques à l'inégalité et à l'inégal. Et les deux premiers termes diffèrent beaucoup des seconds. Les derniers sont des parties, les autres sont des tout. Ainsi, cette injustice spéciale qui résulte de l'inégalité est une partie de l'injustice entière, et de même, telle action de justice est une partie de la justice totale. Paragraphe 10. Il nous faut donc, pour être clair, parler de cette justice et de cette injustice partielle, et traiter du même point de vue du juste et de l'injuste. Nous laisserons de côté la justice et l'injustice, considérées comme se confondant avec la vertu entière, étant à l'égard d'autrui l'une, la pratique de la vertu absolue, et l'autre, la pratique du vice. On voit, avec une égale évidence, comment il faudrait définir aussi le juste et l'injuste qui se rapportent à ces deux points de vue. Du reste, la plupart des actions conformes à la loi ne le sont pas moins au principe de la vertu parfaite. La loi prescrit de vivre suivant les règles particulières de chaque vertu, tout comme elle défend les actes que peut inspirer chaque vice en particulier. Paragraphe 11. Réciproquement, tout ce qui prépare et produit la vertu entière et parfaite est du domaine de la loi, comme le prouvent assez toutes les dispositions prescrites dans les lois pour l'éducation commune que l'on donne à la jeunesse. Quant à savoir si les règles de cette éducation, qui doit rendre chaque individu absolument vertueux, peuvent être données par la politique ou par une autre science, nous aurons plus tard à discuter cette question, car ce n'est peut-être pas une seule et même chose d'être homme vertueux et d'être partout un bon citoyen. Paragraphe 12. Mais je reviens à la justice partielle et au juste qui, sous ce point de vue, se rattache à elle. J'y distingue d'abord une première espèce. C'est la justice distributive des honneurs, de la fortune et de tous les autres avantages qui peuvent être partagés entre tous les membres de la cité. Car dans la distribution de toutes ces choses, il peut y avoir inégalité comme il peut y avoir égalité d'un citoyen à un autre. Paragraphe 13. À cette première espèce de justice, j'en ajoute une seconde. C'est celle qui règle les conditions légales des relations civiles et des contrats. Et ici encore, il faut distinguer deux nuances. Parmi les relations civiles, les unes sont volontaires, les autres ne le sont pas. J'appelle relations volontaires, par exemple, la vente, l'achat, le prêt, la garantie, la location, le dépôt, le salaire. Et si on les appelle des contrats volontaires, c'est qu'en effet, le principe de toutes les relations de ce genre ne dépend que de notre volonté. D'un autre côté, on peut, dans les relations involontaires, distinguer celles qui ont lieu à notre insu. Le vol, l'adultère, l'empoisonnement, la corruption des domestiques, le détournement des esclaves, le meurtre par surprise, le faux témoignage, et celles qui ont lieu à force ouverte, comme les sévices personnels, la séquestration, les chaînes dont on vous charge, la mort, le rapt, les blessures qui estropient, les paroles qui offensent et les outrages qui provoquent. Chapitre 3 Sommaire. Première espèce de la justice. La justice distributive ou politique se confond avec l'égalité. Le juste est un milieu comme l'égal. La justice suppose nécessairement quatre termes. Deux personnes que l'on compare et deux choses que l'on attribue aux personnes. Mais il faut tenir compte du mérite relatif des personnes, et c'est là le point difficile. La justice distributive peut donc être représentée par une proportion géométrique où les quatre termes sont entre eux dans les rapports fixés par les mathématiciens. Paragraphe 1. Puisque le caractère de l'injustice est l'inégalité, et que l'injuste est l'inégal, il s'ensuit clairement qu'il doit y avoir un milieu pour l'inégal. Or, ce milieu, c'est l'égalité, car dans toute action, quelle qu'elle soit, où il peut y avoir du plus et du moins, l'égalité se trouve aussi. Paragraphe 2. Si donc l'injuste est l'inégal, le juste est l'égal. C'est ce que chacun voit, même sans aucun raisonnement. Et si l'égal est un milieu, le juste doit être pareillement un milieu. Paragraphe 3. Mais l'égalité suppose tout au moins deux termes. Par une conséquence qui n'est pas moins nécessaire, le juste est un milieu et une égalité relativement à une certaine chose et à de certaines personnes. En tant que milieu, il est le milieu de certains termes qui sont le plus et le moins. En tant qu'égalité, il est l'égalité de deux choses. Enfin, en tant que juste, il se rapporte à des personnes d'un certain genre. Paragraphe 4. Le juste implique donc de toute nécessité au moins quatre éléments. Les personnes auxquelles le juste s'applique sont au nombre de deux, et les choses dans lesquelles se trouve le juste sont deux aussi. Paragraphe 5. L'égalité est ici la même, et pour les personnes et pour les choses dans lesquelles elle est. Je veux dire que le rapport dans lequel sont les choses est aussi le rapport des personnes entre elles. Si les personnes ne sont pas égales, elles ne devront pas non plus avoir des parts égales. Et de là, les disputes et les réclamations, lorsque des prétendants égaux n'ont pas des parts égales, ou lorsque, n'étant pas égaux, ils reçoivent pourtant d'égales portions. Paragraphe 6. Ceci même est de toute évidence si, au lieu de regarder aux choses, on regarde au mérite des personnes qui les reçoivent. Chacun s'accorde à reconnaître que, dans les partages, le juste doit se mesurer au mérite relatif des rivaux. Seulement, tout le monde ne fait pas consister le mérite dans les mêmes choses. Les partisans de la démocratie le placent uniquement dans la liberté. Ceux de l'oligarchie le placent tantôt dans la richesse, tantôt dans la naissance, et ceux de l'aristocratie dans la vertu. Paragraphe 7. Ainsi donc, le juste est quelque chose de proportionnel. La proportion n'est pas bornée spécialement au nombre pris dans son unité et dans son abstraction. Elle s'applique au nombre en général, car la proportion est une égalité de rapport et elle se compose de quatre termes au moins. Paragraphe 8. D'abord, il est de toute évidence que la proportion discrète est formée de quatre termes, mais cela n'est pas moins évident pour la proportion continue. Celle-ci emploie un des termes comme s'il en formait deux à lui seul, et elle le répète deux fois. Elle dit, par exemple, A est à B comme B est à C, Ainsi, B est répété deux fois, de sorte que par cette répétition de B, les termes de la proportion sont aussi au nombre de 4. Paragraphe 9. Le juste se compose également de 4 termes au moins, et le rapport est le même, car il y a la même division exactement et pour les personnes et pour les choses. Ainsi donc, de même que le terme A est à B, de même le terme C est à D. Et réciproquement, de même que A est C, de même B est D. Par suite aussi, le total de deux des termes est dans le même rapport avec le total des deux autres termes. Et l'on forme de part et d'autre ce total en additionnant les deux termes qu'on sépare de ceux qui les suivent. Si les termes sont combinés entre eux suivant cette règle, l'addition reste parfaitement juste. Ainsi donc, l'accouplement de A avec C et de B avec D est le type de la justice distributive. Et le juste de cette espèce est un milieu entre des extrêmes qui, sans cela, ne seraient plus en proportion, car la proportion est un milieu et le juste est toujours proportionnel. Paragraphe 10. Les mathématiciens appellent cette proportion géométrique. Et, en effet, dans la proportion géométrique, le premier total est au second total, comme chacun des deux termes est à l'autre. Paragraphe 11. Mais cette proportion qui représente le juste n'est pas continue, car il n'y a pas numériquement un seul et même terme pour la personne et pour la chose. Si donc le juste est la proportion géométrique, l'injuste est ce qui est contre la proportion. Ce peut être d'ailleurs tantôt en plus et tantôt en moins. Et c'est bien là ce qui se passe aussi dans la réalité. Celui qui commet l'injustice s'attribue plus qu'il ne doit avoir, et celui qui la souffre reçoit moins qu'il ne lui revient. Paragraphe 12. Mais c'est à l'inverse quand il s'agit du mal, parce qu'un moindre mal, comparativement à un mal plus grand, peut être regardé comme un bien. Le mal moindre est préférable au mal plus grand. Or, ce qu'on préfère, c'est toujours le bien, et plus la chose est préférable, plus aussi le bien est grand. Paragraphe 13. Telle est donc l'une des deux espèces qu'on peut distinguer dans le juste. Chapitre 4. Sommaire. Seconde espèce de la justice. Justice légale et réparatrice. La loi ne doit faire aucune acception des personnes. Elle doit tendre uniquement à rétablir l'égalité entre la perte faite par l'un et le profit fait par l'autre, dans les relations qui ne sont pas volontaires. Cette espèce de justice est une sorte de proportion arithmétique. Démonstration graphique. Résumé de cette théorie générale de la justice. Paragraphe 1. Quant à l'autre espèce de la justice, c'est la justice réparatrice et répressive qui règle les rapports des citoyens entre eux et dans les relations volontaires et dans les relations involontaires. Paragraphe 2. Le juste se présente ici sous une toute autre forme que la première. Le juste, qui ne concerne que la distribution des ressources communes de la société, doit toujours suivre la proportion que nous venons d'expliquer. Si l'on venait à partager les richesses sociales, il faudrait que la répartition eût lieu précisément dans le même rapport qu'ont entre elles les parts apportées par chacun. L'injuste, c'est-à-dire l'opposé du juste ainsi entendu, et ce qui serait contraire à cette proportion. Paragraphe 3. Le juste, dans les transactions civiles, est bien aussi une sorte d'égalité, et l'injuste une sorte d'inégalité. Mais ce n'est pas suivant la proportion dont on vient de parler, c'est suivant la proportion simplement arithmétique. Très peu importe en effet que ce soit un homme distingué qui ait dépouillé un citoyen obscur, ou que le citoyen obscur ait dépouillé l'homme de distinction. Très peu importe que ce soit un homme distingué ou un homme obscur qui ait commis un adultère. La loi ne regarde qu'à la différence des délits, et elle traite les personnes comme tout à fait égales. Elle recherche uniquement si l'un a été coupable, si l'autre a été victime, si l'un a commis le dommage et si l'autre l'a souffert. Paragraphe 4. Par suite, le juge s'efforce d'égaliser cette injustice qui n'est qu'une inégalité, car lorsque l'un a été frappé et que l'autre a porté les coups, lorsque l'un tue et que l'autre meurt, le dommage éprouvé d'une part et l'action produite de l'autre sont inégalement partagés, et le juge, par la peine qu'il impose, essaie d'égaliser les choses en ôtant à l'une des parties le profit qu'elle a fait. Paragraphe 5. Je me sers d'ailleurs de termes généraux qu'a consacré l'usage dans les cas de ce genre, bien que ces expressions ne soient précisément applicables que dans certains cas. Et je dis profit en parlant de celui qui a frappé et perte en parlant de celui qui a souffert la violence. Paragraphe 6. Mais quand le juge a pu mesurer le dommage éprouvé, le profit de l'un devient sa perte et la perte de l'autre devient son profit. Ainsi, l'égalité est le milieu entre le plus et le moins. Profit et perte ou souffrance doivent s'entendre, le premier du plus, le second du moins, en sens contraire. Le plus en fait de bien et le moins en fait de mal, c'est le profit. Et le contraire, c'est la perte ou la souffrance. L'égal qui tient le milieu entre l'un et l'autre est ce que nous appelons le juste. Et en résumé, le juste, qui a pour objet de redresser les torts, est le milieu entre la perte ou la souffrance de l'un et le profit de l'autre. Paragraphe 7. Voilà comment, toutes les fois qu'il y a contestation, on se réfugie près du juge. Mais aller au juge, c'est aller à la justice, car le juge nous apparaît comme la justice vivante et personnifiée. On va chercher un juge qui tienne le milieu entre les parties contendantes. Et l'on donne même parfois au juge le nom de médiateur, comme si l'on était sûr d'avoir rencontré la justice une fois qu'on a rencontré le juste milieu. Le juste est donc un milieu, puisque le juge lui-même en est un. Or, le juge égalise les choses, et l'on pourrait dire que, dans une ligne coupée en parties inégales, et où la portion la plus grande dépasse la moitié, il retranche la partie qui l'excède et l'ajoute à la plus petite portion. Puis, quand le tout a été partagé en deux parts complètement égales, alors chacun des plaideurs reconnaît qu'il a la part qui lui doit revenir, c'est-à-dire que les plaideurs ont chacun une part égale. Paragraphe 9. Mais l'égal est le milieu entre la part la plus grande et la part la plus petite en proportion arithmétique. Et voilà pourquoi, dans la langue grecque, le mot qui signifie le juste est presque identique à celui qui signifie la division égale en deux parties, et qu'il suffit de changer une seule lettre de part et d'autre pour que les mots qui expriment le juste et la division en deux, le juge et celui qui divise une chose en deux, soient des mots absolument pareils. Paragraphe 10. Deux choses étant égales, si l'on enlève à la seconde une certaine quantité que l'on ajoute à l'autre, la première surpassera la seconde de deux fois la quantité ajoutée. Car si l'on se borne à retrancher cette quantité à l'une sans l'ajouter à l'autre, la première chose ne surpassera la seconde que d'une fois cette différence. Ainsi donc, la portion augmentée surpassera d'un la moitié de la chose, et cette moitié, à son tour, surpassera d'un aussi la portion à laquelle on a enlevé quelque chose. Paragraphe 11. Par là, nous pouvons savoir ce qu'il faut retrancher à celui qui a plus et ce qu'il faut rendre à celui qui a moins. Il faut ajouter au terme qui a moins toute la quantité dont la moitié le surpasse et enlever au terme le plus grand toute la quantité dont la moitié elle-même est surpassée. Paragraphe 12. Soit trois lignes AA, BB, CC, égales les unes aux autres. De AA, retranchons la partie AE, et à CC, ajoutons la partie CD. Il en résulte que la ligne entière CCD surpasse AE de la partie CD et de la partie CF. Elle surpasse donc aussi BB de CD. On pourrait dire qu'il en est de même dans tous les autres arts comme il en est ici de la justice. Les arts ne subsisteraient pas si, pour chacun, l'agent n'agissait pas dans une certaine mesure et d'une certaine façon, et si la chose qui doit souffrir l'action ne la souffrait pas également dans une mesure et d'une manière déterminée. Paragraphe 13. J'ajoute aussi que ces noms de profit et de perte que nous employons en étudiant la justice sont venus de l'échange et des transactions volontaires. Quand on a plus qu'on avait d'abord, cela s'appelle faire un profit. Et quand au contraire, on se trouve avoir moins qu'au début, cela s'appelle essuyer une perte. C'est ce qui arrive, par exemple, dans les transactions de vente et d'achat, et dans toutes celles où la loi a laissé pleine liberté aux contractants. Mais quand on n'a ni plus ni moins que ce qu'on avait, et que les choses sont restées tout ce qu'elles étaient auparavant. On dit que chacun a son bien et que personne n'a fait ni perte ni profit. Paragraphe 14. En résumé, le juste est l'exact milieu entre un certain profit et une certaine perte dans les transactions qui ne sont pas volontaires. Et il consiste en ce que chacun a sa part égale après comme avant.